Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Excellente année à vous, auditeurs et auditrices de l'émission Écho de ma commune et de mon canton. Pour cette première émission de l'année 2023, je suis particulièrement heureux de recevoir Christophe Ledorven, président du conseil départemental d'Eure-et-Loire. On ne dira jamais assez de bien des départements. Héritage de la Révolution française, la création du département remonte à 1790. 83 départements avaient été découpés en sorte que les citoyens les plus éloignés du chef-lieu devaient être en mesure de faire le trajet aller-retour à cheval sur la journée, selon le vœu de Condorcet. Internet a remplacé les chevaux, mais il n'empêche que l'État semble s'être éloigné de son peuple ces dernières années, de son peuple et de ceux qui le représentent, les élus des collectivités territoriales. Est-ce que je me trompe? Je crois pas que je me trompe parce que je vous ai déjà entendu dire la même chose en plus court.
Et écoutez, bonjour, meilleurs vœux également à vous. Et non, je crois que vous ne vous trompez pas, effectivement. C'est à peu près ce que je pense.
Oui. Parler de l'année qui vient, c'est s'aventurer beaucoup dans la situation nationale, internationale, où semble installe. Est-ce que cette instabilité vous inquiète, Christophe Ledorven?
Oui, bien sûr. Enfin, comment ne pas être inquiet, à titre individuel, évidemment, en chef d'entreprise aussi, et puis pour l'économie nationale, pour l'économie de notre territoire aussi. Je suis interpellé tous les jours par les artisans, par les PME, particulièrement par les artisans boulangers.
Oui, on voit que les boulangers souffrent davantage que les autres.
Oui. Mais oui, en fait, c'est parmi les artisans, les plus gros consommateurs d'énergie, et particulièrement d'électricité ou de gaz. Et donc, ce sont ces entrepreneurs-là qui souffrent le plus aujourd'hui, puisqu'ils sont dans le marché libéré, et donc avec des prix qui peuvent s'envoler, des prix complètement fous.
Ouais.
Comment ne pas être inquiet?
Ouais. Ça, est-ce que c'est la faute à l'État, cette gestion de l'électricité? C'était un des fleurons de la France, EDF, oui. Comme la SNCF, autrefois, etc. On a le sentiment que...
Oui, très clairement, oui. Ouais. C'est pas la faute de l'État, c'est la faute des gouvernants successifs depuis maintenant une bonne dizaine d'années qui ont fait de mauvais choix.
Ouais.
C'est aujourd'hui, on entend le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, nous expliquer que nous ne pouvons pas sortir du marché européen de l'énergie parce que nous ne sommes pas capables de fournir l'ensemble de notre consommation. Mais j'ai juste souvenir que nous étions le premier exportateur mondial d'électricité. Alors effectivement, on n'a pas autant de gaz qu'on en consomme, on n'en a jamais eu, mais pourquoi diable aller indexer le prix de l'électricité sur le gaz, à part pour... considérer qu'il vaut mieux produire de l'électricité à partir d'une centrale à gaz ou une centrale à charbon, comme le font les Allemands. Nous avions effectivement un fleuron nucléaire qui était le fleuron national, mais comme je vous le disais, le premier exportateur mondial d'électricité, avec une électricité à coût réduit. Il est inadmissible que l'on ait... par idéologie et pour faire plaisir à certains ayatollahs, que nous ayons abandonné notre filière. Nous avons non seulement abandonné la filière, pas assez entretenu nos centrales nucléaires pour qu'aujourd'hui on ait assez de réacteurs qui produisent de l'électricité, et puis on s'est mis complètement aux mains de puissances étrangères. On a vendu les entreprises qui travaillaient dans les filières nucléaires civiles.
C'est un problème de souveraineté nationale aussi, non, de rapport là, oui.
Bien sûr. On a considéré que nous n'avions plus de guerre sur le sol européen, nous n'avions finalement plus de raison de se méfier ni de la Russie, ni des États-Unis, ni même de la Chine. C'était d'ailleurs la vision de l'Allemagne. L'Allemagne considérant qu'il vaut mieux une interdépendance entre l'Allemagne et la Russie, entre l'Europe, l'Union européenne et la Russie, pour éviter à la Russie de déraper vers la dictature. Ah ben, je dois dire que
C'est une belle réussite.
C'est une belle réussite, effectivement, cette interdépendance. Aujourd'hui, l'Allemagne est complètement aux mains de puissances étrangères, également pour la fourniture de gaz. Et nous-mêmes, Français, avons bêtement suivi les leurs allemands.
Alors, est-ce que cette crise, justement, qui est à la fois économique et énergétique, vous oblige à repenser les projets en cours ?
Alors, repenser les projets en cours, non, pas forcément, puisque, vous savez, dans une collectivité, d'abord, il y a une règle, c'est qu'on ne dépense que l'argent qu'on a. Nous avons l'obligation, nous, de voter des budgets en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État.
De l'État, oui.
Et ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que l'État vote ses budgets, puisque je crois que le dernier budget qui a été voté en équilibre, c'était un budget où Jacques Chirac était Premier ministre, de Valéry Giscard d'Estaing.
C'est pas tout jeune.
Et donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas connu, personnellement. Donc, c'est vous dire. Les collectivités ne sont pas des philanthropes. Donc, on ne dépense l'argent que quand on l'a, et quand on a la perspective aussi que c'est pour le bien commun. Je ne connais pas beaucoup de collectivités qui votent un budget de fuite en avant. Et donc, les projets, nous les mûrissons, nous les réfléchissons d'abord avant de les mûrir, et il faut que ça corresponde à un besoin. Donc, ça n'est pas parce qu'il y a une crise énergétique ou une crise politique ou une crise économique que les besoins changent fondamentalement. Ouais. Par contre, que l'on fasse évoluer nos projets en tenant compte, évidemment, de nouvelles donnes, oui, bien sûr. Nous sommes en permanence en évolution sur la construction de nos projets.
Ouais. Alors, le projet phare de votre présidence, c'est Eure-et-Loire 2040. À 2040, à 3 ans près, c'est dans 20 ans. Alors, dans 20 ans, si d'ici là, vos rêves se réalisent, l'Eure-et-Loire ressemblera à quoi, en fait ? Comment vous la voyez, l'Eure-et-Loire de vos rêves ?
Alors, l'Eure-et-Loire de mes rêves, c'est pas forcément l'Eure-et-Loire que l'on aura, puisque je suis quand même encore un peu démocrate. Et je ne prends pas forcément mes rêves pour des réalités. Justement, le but d'Eure-et-Loire 2040, c'est de donner la parole, évidemment, aux élus départementaux, mais pas seulement, aux élus locaux, des collectivités, les maires sont venus contribuer, des agents aussi de notre collectivité, mais aussi des particuliers, puisque cette enquête a été ouverte à tous les Euréliens, et nombreux sont ceux qui ont répondu. Et d'ailleurs, sur des sujets que je n'aurais pas forcément imaginé qu'ils placeraient en tête. Je n'avais pas imaginé, par exemple, que les maires mettraient en priorité absolue la gestion de l'eau, et la santé. La santé, on pouvait peut-être le pressentir. Mais par contre, la gestion de l'eau, oui, bien sûr, je savais qu'il y avait des difficultés à entretenir les réseaux, avec des réseaux fuyards, avec beaucoup de difficultés dans les communes les plus rurales, et qui sont finalement étendues avec de grands réseaux, mais très peu d'abonnés. Et donc, comme le prix de l'eau doit se suffire à lui-même pour pouvoir financer les investissements de l'eau. Ça veut dire que quand on fait 1 km de tuyauterie dans le sol, ça veut dire qu'on doit facturer au seul consommateur d'eau le prix de ce kilomètre. Et donc, pour une toute petite commune, imaginez, j'étais il y a quelques temps à Saint-Bomer dans le Perche, je peux vous dire l'inquiétude du maire de Saint-Bomer qui a un réseau extrêmement fuyard, qui a 22 km pour une toute petite commune de 200 habitants. Donc, c'est impossible pour ces communes de faire ces investissements. Alors, le conseil départemental est là pour les accompagner, mais malgré tout, ça ne suffit plus.
Oui.
Alors, je suis étonné qu'ils aient mis cela dans les priorités, parce que je n'imaginais pas que ça serait une priorité, étant donné que la loi a prévu que les communes puissent confier aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération, la compétence de l'eau. De l'eau propre et de l'eau sale, d'ailleurs. Et je pensais que ça suffirait. Manifestement, ça n'a pas l'air de suffire. Les communautés de communes ont l'air d'avoir à peu près les mêmes difficultés que les communes à financer, justement, ces, ces gros investissements à venir.
Et puis la dotation de l'État, pardon, évidemment, baisse considérablement depuis des années et des années. Les petites communes rurales ont du mal à s'en sortir aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais. Alors la réalité, c'est que François Hollande a fait perdre à peu près 20 à 25% des dotations qui étaient versées aux communes, enfin à toutes les collectivités. Emmanuel Macron a fait cesser l'hémorragie, mais fait stagner. Et donc ça n'évolue plus. Et en plus de ça, les petites communes, notamment dans les zones rurales les plus éloignées des pôles urbains, sont des communes qui ont perdu des habitants. Et donc forcément, qui perdent naturellement de la dotation globale de fonctionnement de l'État, puisqu'elle est en partie calculée sur le nombre d'habitants. Donc c'est finalement un traquenard. C'est les communes les plus rurales qui vont avoir le plus de besoins d'équipement puisque l'État s'est éloigné de ces communes. Donc elles ont justement des besoins d'avoir des équipements pour accueillir des services publics que l'État a cessé d'avoir. Je pense aux agences postales communales, je pense aux maisons France Service, etc. Donc on est en train, collectivité, de prendre ce que l'État n'arrive plus à assumer.
Quand on se rappelle que l'État a voulu supprimer les départements, on se dit que il a eu raison de ne pas le faire. Hein, mais...
Oui, mais alors vous avez tout à fait raison. François Hollande avait comme ambition de tuer les départements. Comme il n'y arrivait pas à le faire directement, il a cessé de faire exister les conseils généraux et les a transformés en conseils départementaux en faisant des maxi-cantons pour dire « bon, les élus ne seront plus connus de leurs concitoyens ». Bon, c'était mal connaître les conseillers départementaux qui labourent le terrain. Et puis en plus, qui se font respecter des maires de chacune des communes en apportant leur assistance permanente. Et puis les financements aussi que le département apporte aux communes, puisqu'on est le premier partenaire des communes. Donc voilà, c'était cette idée. Et puis après, il a voulu effectivement nous couper les vivres, hein, puisque nous n'avons plus au département, nous sommes la seule collectivité à ne plus avoir de fiscalité directe. Nous sommes totalement dépendants de la politique de l'État. Nous avons un partage de TVA, nous avons des dotations qui nous sont données par l'État, nous avons un fonds de péréquation, mais voilà, nous dépendons totalement de décisions nationales.
C'est inadmissible. C'est dans ce sens que vous disiez récemment que finalement le département que vous avez à gérer, c'est plus du tout la même chose que le conseil général de l'époque d'Albéric de Montgolfier, etc.
Ça n'est plus effectivement le conseil général d'Albéric de Montgolfier et encore moins le conseil général de Maurice Violette. Ouais. Encore moins. Ouais. Alors, on assume beaucoup plus de compétences au gré des nombreuses décentralisations qu'il y a eu. Mais finalement, on a moins de marge de manœuvre. Et encore, nous sommes sur un département attractif, un département qui a la chance d'avoir des entreprises qui s'implantent, d'avoir des communes comme Chartres et son agglomération, ou Dreux et son agglomération, ou la vallée de l'Eure, qui permettent d'avoir une richesse sur le territoire et qui permettent d'avoir une économie locale qui tire le département vers le haut. Et une pression foncière de la région parisienne qui fait que les prix de l'immobilier ici permettent effectivement d'avoir des recettes pour le département qui sont non négligeables. Donc nous ne sommes pas un département pauvre, mais par contre nous sommes un département qui est peu peuplé et qui a besoin effectivement d'investissements sur le territoire qui sont colossaux.
Ouais. Quels sont les grands atouts? La situation géographique, vous le disiez, la proximité de Paris, c'est une chance. Et en même temps, vous ne voulez pas que le Eure-et-Loir devienne un département dortoir de la région parisienne, évidemment.
Et oui, en fait, effectivement que c'est une chance, la proximité avec Paris. Et très clairement, l'Eure-et-Loir est dans le Grand Paris. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et vous aurez beau résister autant que vous voudrez, nous sommes dans le Grand Paris. Par contre, il ne faut pas subir cette pression foncière. C'est la raison pour laquelle, par exemple sur un sujet comme l'autoroute A154, il faut être proactif. Il ne faut pas se dire on est contre, absolument contre. Non, d'abord, à titre personnel, moi je suis pour cette autoroute. Mais dès lors qu'elle irrigue notre territoire et qu'elle sert aux Euréliens et qu'elle sert à notre territoire. Sinon, on fera ce que l'Eure-et-Loir a toujours connu, c'est-à-dire qu'on va subir le développement de Paris. Et il n'est pas normal qu'on subisse les décisions qui sont prises à Paris ou en région parisienne. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas que le département devienne une zone dortoir, effectivement, c'est peut-être la grande différence entre Emmanuel Macron, son gouvernement et les élus locaux que nous sommes, c'est que nous voulons une ruralité vivante et pas une mise sous cloche comme le préconisent les ayatollahs d'Europe Écologie Les Verts, par exemple.
Et puis finalement, la dimension rurale, les petits villages ont quelque chose à nous apporter. J'ai vu qu'une étude de l'INSEE montre que, par exemple, le niveau scolaire est légèrement supérieur dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc ce sont aussi des zones, si j'ose dire, d'excellence.
Alors je ne sais pas si ce sont des zones d'excellence. En tout cas, dès lors que l'enseignant est bon, peu importe où il est, bon et passionnant, peu importe où il est, il peut avoir, il peut communiquer sa passion de l'enseignement, sa passion de l'apprentissage. Maintenant, peut-être est-il plus facile effectivement d'apprendre quand on est en milieu rural et quand on a surtout des parents impliqués. Ce qu'on peut avoir aussi pour faire baisser les moyennes dans les zones urbaines, c'est aussi des parents qui ne sont pas forcément de langue maternelle en français et qui ne peuvent pas suivre la scolarité de leurs enfants de la même manière. Donc il y a ça aussi à mettre en relation.
Ouais. Ça, vous pouvez intervenir là-dessus, parce qu'il y a des leviers, justement,
alors, l'appartement. Oui, les leviers, c'est, puisque vous savez qu'on doit gérer le bâtimentaire des collèges, mais on a fait le choix en Eure-et-Loire de ne pas se résumer à cela. Et donc nous venons aussi, dans un plan de meilleure réussite scolaire, verser aux collèges les fonds qui leur permettent de faire du soutien scolaire notamment, mais aussi d'avoir des activités périscolaires et même scolaires d'ailleurs, qui mettent en avant la culture, qui mettent en avant le sport, l'hygiène, des choses qui peuvent paraître quelquefois en dehors de la scolarité, mais qui ont toujours été prises en compte par les enseignants. Les enseignants du début du XXe siècle, quand l'école est devenue obligatoire, eh bien, la première des choses qu'ils faisaient, y compris en milieu rural, c'était de vérifier l'hygiène des enfants qui venaient. Et tout le monde devait aller se laver les mains avant d'aller apprendre. Eh bien, voilà, en fait, rien n'a changé.
Ce serait très mal vu par les parents de nos jours. Hein.
Oui, et pour autant, c'est fait quand même par les enseignants. Ouais. D'une autre manière, dans une espèce de transmission et pas dans l'obligation. Mais c'est fait quand même.
Alors, parmi les atouts du département, il y a aussi des fleurons industriels. Je pense à la Cosmetic Valley. Or, l'emploi, c'est quelque chose qui doit forcément vous intéresser lorsqu'on sait que le département, par exemple, gère, et ça lui coûte cher, le RSA. Vous avez donc tout intérêt à ce que les gens retrouvent le chemin de l'emploi. Or, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, pas seulement en Eure-et-Loire, un peu partout en France. Il y a plein de postes qui ne sont pas pourvus. Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose?
Alors, je n'ai pas de baguette magique. Mais par contre, effectivement, vous avez parfaitement résumé la situation. On a effectivement sur notre département des fleurons industriels. Vous avez cité effectivement la Cosmetic Valley. On a Pôle Pharma plutôt sur le Drouet. On a aussi des entreprises comme Forwerk sur le sud de notre département à Cloyes et bientôt avec une deuxième unité de production à Châteaudun. Nous avons à gérer au département les bénéficiaires du RSA et nous avons à gérer l'insertion. Par contre, la loi NOTRe de 2015 nous interdit d'agir en matière économique, ce que nous faisions auparavant. Donc nous avons à gérer les gens qui n'ont pas d'emploi, l'insertion, mais pas les entreprises pour accueillir ces personnes. Et c'est la région qui a cette compétence et qui fait ce qu'elle peut, mais n'a pas forcément tous les atouts pour réussir dans ses missions. Là où nous pouvons agir, parce que comme je vous dis, j'ai pas de baguette magique, c'est de ramener à l'emploi des gens qui d'abord ont déjà travaillé dans leur vie, des gens qui ne sont finalement pas trop éloignés de l'emploi, et donc c'est peut-être de leur redonner d'abord un coup de pouce pour remonter sur leur cheval, mais c'est presque ça, leur redonner aussi confiance en eux pour certains. Et puis, il peut arriver à chacun d'entre nous d'avoir un accident de la vie qui fait que, à un moment, on est malade, à un moment, on ne peut plus travailler, et puis les choses s'amélioreront. On peut retourner vers l'emploi. Mais quand on a cessé de travailler pendant plusieurs années, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et puis le marché du travail, il continue d'évoluer pendant que vous vous êtes arrêté. Et donc, il faut pouvoir se réadapter, il faut pouvoir se former, il faut pouvoir aussi avoir un pied à l'étrier, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est notre job. Ouais. Et ça, c'est pas ce qui est le plus compliqué à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est d'essayer de mettre en adéquation des personnes qui pourraient prendre des postes avec des postes non pourvus. Vous disiez tout à l'heure, les postes non pourvus sont extrêmement nombreux, dans notre département comme partout en France. Est-ce qu'il faut considérer qu'à 8% de chômeurs, on est au plein emploi ? C'est une discussion que j'ai eue avec le ministre du Travail quand il est venu en Eure-et-Loir. Je lui ai dit que pour ma part, je pensais qu'il fallait supprimer le RSA, qui ne sert plus à rien. C'était peut-être valable au moment où on avait un chômage qui éclatait tous les plafonds. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. La pyramide des âges fait qu'on a besoin de main-d'œuvre. À tel point, c'est qu'on va chercher de la main-d'œuvre à l'étranger comme dans les années 60 et 70, quand même. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire coïncider ces emplois avec les demandeurs d'emploi. Oui. Et ça, c'est de la formation plus lourde. C'est pas juste dire, bon, voilà, on va vous réapprendre comment on doit se comporter dans une entreprise, etc. Non, là, c'est des formations diplômantes. Et là, pour le coup, c'est pareil. Le département n'a pas la main sur la formation, c'est la région. Donc, on est obligé, finalement, de travailler ensemble, région, département, ce qu'on fait naturellement tous les jours. Mais c'est compliqué. Avec le président de région, avec le président Bonneau, on s'est mis d'accord pour pouvoir, et avec les chambres consulaires également, pour pouvoir promouvoir les formations diplômantes sur les métiers en tension. Ouais. Donc évidemment, les métiers du grand âge, les métiers de la restauration, les métiers de bouche, mais pas seulement. En fait, vous savez que les collectivités n'arrivent pas à recruter non plus. Combien de maires vous diront qu'ils n'arrivent pas à recruter de secrétaire de mairie ? Encore une fois, ce n'est pas de la baguette magique, on fait tout ce qu'on peut, mais quand j'ai dit au ministre qu'il fallait supprimer le RSA, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 3/3 dans le RSA. Vous avez 1/3 de personnes qui sont presque facilement employables. Vous avez 1/3 de personnes qu'il faut former pour retrouver un emploi. Et il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a 1/3 des personnes qu'on ne remettra jamais en emploi et qui, quelquefois, n'ont jamais travaillé. Là, il y a des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite sans jamais avoir travaillé, qui ont été RMistes, puis au RSA. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne mettra jamais ces personnes au travail. Et ça n'est pas au département de payer cette solidarité-là. Alors, dans ce tiers-là, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, enfin, qui ne travaillent pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Et ça, ça existe. Et là, ce que j'ai demandé aussi, c'est qu'on soit un petit peu plus pointilleux et qu'on regarde très clairement, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont un handicap et qui ne sont pas en capacité de travailler. Et puis d'autres qui ne veulent pas travailler et qui considèrent le RSA comme une protection sociale. Oui. Et qui leur permettent de faire du trafic par ailleurs. Ben ça, moi, je ne le veux pas. Ce n'est pas ma conception de la solidarité nationale, encore moins quand c'est les départements qui paient.
Il nous reste 4 minutes maximum. Alors, malgré...
Je suis donc, bavard.
Non, mais c'est très bien. C'est ce qu'on vous demande. Malgré la situation épineuse dans laquelle on se débat tous, les administrés comme les administrations, comme les collectivités locales, le département va continuer d'investir cette année à hauteur de 110 millions d'euros. L'entretien, l'amélioration du réseau routier fait évidemment partie des priorités. D'autant qu'on est, j'ai appris il y a peu de temps, finalement, le département de France où il y a le plus de routes. l'autre, ou presque. Hein.
Oui, on est le deuxième.
Le deuxième.
Alors, oui, ce qu'on pourrait dire quand même, c'est 110 millions d'euros, c'est un chiffre record. Ça n'est jamais arrivé en Eure-et-Loire. Ouais. Et encore une fois, si on le fait, c'est parce qu'on a les recettes qui nous permettent de le faire. Et je salue d'ailleurs la très bonne gestion de mes prédécesseurs. Albéric de Montgolfier, comme Claude Terwinard, ont parfaitement géré le département et j'ai récupéré une collectivité à la gestion extrêmement saine. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un investissement extrêmement fort. Pour vous dire, pour la troisième année consécutive, on va consacrer aux alentours de 40 millions d'euros sur notre réseau routier départemental. Alors oui, vous avez raison, nous sommes le deuxième département de France derrière la Manche sur notre réseau routier départemental. Si l'État nous transfère les nationales qui sont sur notre département, nous deviendrons le premier département. Ouais. Voilà. Ce n'est pas une gloire. Hein. C'est historique. C'est simplement à une époque où le blé devait partir très vite de Beauce, mon illustre prédécesseur Maurice Violette a fait goudronner tous les chemins pour permettre justement de raccourcir le temps pour amener le blé vers la Seine et vers le port du Havre.
Et on va le raccourcir encore avec l'autoroute.
Oui, même si maintenant le grain part plutôt par le train et quelquefois, oui, par l'autoroute aussi.
Ouais. J'aurais vous poser une question. Alors, on aurait pu parler de l'action sociale, etc., mais on va en garder pour le mois prochain.
Je reviendrai.
Voilà. Votre sentiment sur... vous êtes un gaulliste.
Oui.
Un gaulliste plutôt de l'école sociale, peut-être Philippe Seguin ou cette...
Exactement.
J'ai vu qu'il y avait une petite croix de Lorraine, d'ailleurs, sur le revers de votre veste.
Sur ma veste, oui.
En tant que gaulliste, comment vous voyez l'évolution du pays? On a le sentiment d'un effondrement progressif. Est-ce que je rêve ou est-ce que le général de Gaulle ne se retourne pas dans sa tombe en ce moment?
Mais en fait, vous ne rêvez pas, vous cauchemardez. Et c'est un cauchemar qui est partagé par beaucoup de nos concitoyens, mais à juste titre. Ce qui est déstabilisant, c'est de voir que aujourd'hui, il n'y a plus une fonction régalienne où ça se passe bien. On ne peut pas dire qu'en matière de sécurité, ça se passe bien. On ne peut pas dire qu'en matière de justice, ça se passe bien. Les malfrats, si je puis y parler comme ça, qui quelquefois sont condamnés, la peine n'est pas forcément exécutée. La politique pénale de la France est catastrophique. Quand vous regardez l'école, le niveau n'a jamais été aussi faible. Et même, je lisais une étude il y a 15 jours, même chez les professeurs, le niveau n'a jamais été aussi faible. C'est symptomatique. Je ne suis pas sûr que si on nous déclarait la guerre, on soit en mesure de mener une guerre très longtemps.
Voilà. Sur un front de 80 km, je crois, maximum, ce qui est ridicule.
Voilà. Je pourrais vous prendre à peu près toutes les fonctions régaliennes. Bon, je ne vous parle pas de la santé. Est-ce que l'hôpital va bien? Je ne crois pas. Est-ce que la santé, dans sa globalité, va bien? Je suis sûr que non. Donc le gaulliste que je suis vous dit vivement le retour des gaullistes au pouvoir.
Oui. Merci beaucoup Christophe Le Dorven d'être venu jusqu'à nous et donc à très bientôt.
Et à bientôt.
Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qu'ils pourront réécouter cette émission en podcast sur www.radiograndciel.fr. À très bientôt.